שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, חודש טוב, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, מי שנכנס אדר בשמחה, יהיה, on est proche de Purim. Et aujourd'hui, nous revenons dans notre étude de l'histoire du peuple d'Israël pour terminer la période du premier temple. Alors oui, certes, Venaafochou, comme on dit, Venaafochou dans le jargon, puisqu'on aurait dû commencer par l'histoire du premier temple avant celle du second. On a d'abord étudié l'histoire du second temple en 8 épisodes et nous terminons aujourd'hui l'histoire du premier temple. C'est notre 6e épisode de l'histoire du premier temple. À dire vrai, la semaine prochaine, il y aura un épisode spécial qui fera en fait plus ou moins le lien entre le premier et le deuxième temple, puisque ce sera un épisode spécial sur l'histoire de Pourim, pas un Dvar Torah, mais bel et bien l'historique de Pourim, mais ça sera pour la semaine prochaine. Bekitsour, nous revenons dans notre histoire du premier temple et nous avons terminé la semaine dernière sur eh bien, une époque catastrophique puisque nous avons mis en avant la destruction du Beth Amikdash. Cette fois, ça y est, comme on l'a dit, je fais un previously, comme on dit, les rois de Judée se sont révoltés successivement, que ce soit Yehoyachin ou Tzidkiyahou finalement, et donc après 11 ans où Tzidkiyahou était le roi de Jérusalem, eh bien, il décide lui aussi de se révolter contre Babylone. Ainsi, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, vous le savez, arrive à Jérusalem, envoie Nebuzaradan, Rav Tabachim, pour détruire Jérusalem, détruire le Beth Amikdash, et c'est ce qu'on pourrait penser être finalement la fin complètement, de Jérusalem, du Ham Israël, de Mamlechet Yehuda et du premier temple tout entier. Et finalement, eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la fin. Comment ça, ce n'est pas la fin? Eh bien, non. Les Babyloniens vont effectivement commencer à emmener les Juifs en exil. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs vagues d'exil successives. Il y aura tout d'abord la première vague, la vague d'exil qu'on va appeler Galut Yehoyachin ou Yechonia, qu'on verra dans la Megillah de Esther, c'est la Galut avant la destruction du Beth Amikdash, quelques 11 ans avant la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. C'est l'aristocratie qui est emmenée en exil. Après la destruction du Beth Amikdash, il y a la Galut de Tzidkiyahou, c'est le roi de Judée qui s'est révolté et qui a été à la tête d'Israël quand on s'est révolté et qui a vu la destruction du temple. On a dit la semaine dernière, il a essayé de s'enfuir, il a été rattrapé à Yericho, il sera ramené devant Nabucodonosor qui tuera ses enfants devant ses yeux un par un avant de lui crever les yeux lui-même. Il sera emmené ensuite en exil à Babylone. Après cette période-là, donc au lendemain de l'année -586, au lendemain de la destruction du Beth Amikdash, eh bien, les Babyloniens ne vont pas raser complètement le pays, non. On y met en place un gouverneur qui vient au nom de Babylone, au nom de Melech Bavel, et qui sera le gérant, si vous voulez, du reste des Juifs en Judée. Ce gouverneur, eh bien, s'appelle, d'après le Tanakh, s'appelle, eh oui, vous le savez, Gedalia ben Achikam. Gedalia ben Achikam, c'est lui le gouverneur de la Judée, mis en place par les Babyloniens. Alors, Bessaler Gamour, Gedalia ben Achikam, il a un problème. D'après le livre de Jérémie, d'après Yirmiyahu Hanavi, eh bien, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik, certes, il fait partie de la famille de Shevna Sofer, du scribe Shevna, qui était un des conseillers proches du roi, mais qui était un de ceux qui s'est rendu à Babylone. En d'autres termes, il a écouté le père, la famille de Gedalia a entendu l'appel de Yirmiyahu Hanavi de ne pas se révolter contre Babylone. Et c'est donc tout naturellement que, vu qu'il fait partie de ceux qui ont accepté la domination de Babylone, eh bien que Babylone le mette en place comme étant gouverneur. Il est déjà dans l'administration, il est déjà quelqu'un qui a une espèce d'autorité. Et donc, c'est lui qui va être mis en place, Gedalia, pour diriger le peuple juif qui est encore à Jérusalem. On parle d'une population extrêmement petite, moins de 10 000 personnes, mais il faut garder les meubles. Eh oui, sauver les meubles. Gedalia, comme on vient de le dire, n'a pas du tout la lignée aristocratique. Il n'est pas un descendant de David. Il est un des hauts fonctionnaires d'État, mais ce n'est pas un membre de la famille royale. Et c'est exactement cela qui va pousser son rival à l'assassiner. Son rival, qui est-il ? Eh bien, son rival, on le connaît. Il est mentionné dans le livre de Yirmiyahu, dans le livre de Jérémie, au chapitre 41. On nous dit, Vaïbachrodesh Hashevi, Baishmael ben Netanya ben Elishama Mizera Melucha. On a un homme qui s'appelle Ishmael ben Netanya. Ishmael ben Netanya, mais qui est cet homme ? On nous dit qu'il est non seulement ben Netanya, mais ben Elishama, et on nous dit également qu'il est Mizera Melucha, qu'il fait partie de la famille, de la descendance de la royauté. Mais si on y regarde d'un petit peu plus près, eh bien, en fait, il va falloir remonter très, 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 très loin. Car dans la famille de la royauté, il y a les enfants de David, mais avant les enfants de David, eh bien, si on remonte encore plus loin, eh bien, il va y avoir des gens comme Ram, Hetzron, qui sont les descendants de Peretz, de Yehuda, qui sont les bases de la famille royale. Et on y remarquera là-bas qu'il y a, à un moment donné, une famille qui aurait dû être celle qui continue, les descendants de Ram. Eh bien, le fils aîné de Ram s'appelle Yerachmiel. Et c'est lui qui aurait dû être, eh bien, le successeur, celui qui continue la famille. Dans le livre de Divrei Hayamim, on nous raconte que Yerachmiel a marié son fils à une esclave. Une esclave, évidemment, convertie, tout ce que tu veux. Mais à ce moment-là, il semblerait que la royauté soit passée à son frère. Et c'est cette deuxième branche qui a amené finalement à Boaz et à David. Il semblerait que la famille de Yerachmiel, depuis cette époque-là, bien que ne pouvant rien dire, parce que tu as marié ton fils avec une esclave libérée, tu ne mérites donc plus d'être maintenant la famille royale. Mais il semblerait que cette famille ait porté et gardé en elle la frustration de cette éviction pendant des centaines d'années. Toute la maison de David y est passée, ils n'avaient rien à dire, mais lorsque les rois de Beth David ont été tués ou ont été exilés, eh bien, à ce moment-là, Ishmael ben Netanya, qui est le descendant de Yerachmiel, eh bien, se dit, non mais attends, quand il y avait les rois de David en place, j'entends que c'était pas à moi de prendre le pouvoir, mais là, on n'a plus de roi de Beth David, vous nous mettez Gedalia ben Achikam, qui n'est même pas de la famille royale, et donc c'est là qu'il décide de faire un complot pour assassiner Gedalia. Il va réussir. Il va réussir et il va tuer Gedalia ben Achikam, Yesh Omrim. Il y a deux avis chez nos sages. Est-ce qu'il a été tué à Rosh Hashanah, tel qu'il semble sortir du verset de Jérémie 41, ou est-ce qu'il a été tué, d'après le Harizal, le 3 Tishrei, c'est-à-dire trois jours après Rosh Hashanah, le jour où les Dorot ont mis en place le jeûne de Gedalia. Benkach ou Benkach, que ce soit comme ça ou comme ça, c'est l'homme échané. Gedalia ben Achikam, qui était un roi juste, qui a été prévenu, eh oui, il a été prévenu qu'il y avait un complot contre lui. Il a été prévenu, mais il a refusé d'y croire. Et résultat des courses, eh bien, il se fera massacrer. De là-dessus, nos sages vont en tirer une halakha de tous les jours. Il dit, par rapport à cela, que normalement, il aurait dû écouter ceux qui l'ont prévenu que quelqu'un essayait de le tuer, que Ishmael essayait de le tuer. Il a refusé d'écouter, et le Talmud nous dit, ce lashon hara qui a été dit sur Ishmael, certes, c'était peut-être pas bon, mais il aurait dû être pris en compte quand même, parce que ça aurait pu le préserver de cela. Au final, Gedalia meurt. Et après l'assassinat de Gedalia, les Babyloniens vont faire une troisième vague d'exil. Troisième vague d'exil après l'assassinat de Gedalia, et c'est la fin de l'autonomie juive en Judée. À ce moment-là, eh bien, le peuple juif, pour une durée de 52 ans, se retrouve à Babylone sous la domination des Babyloniens. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment, eh ben, comment s'organise la vie? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là, les amis, que nous allons avoir, comment dire, que nous allons avoir les fameux versets que nous connaissons, les versets qui nous parlent de Al Ne'arod Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochenu Et Zion. Eh oui, lorsque Am Israël est envoyé à Babylone, eh bien, les Babyloniens voient les Kohanim, les Lévim arriver et leur demandent de chanter les louanges qu'on chantait au Bet Amigdash. Le Midrash nous racontera même qu'ils se sont auto-coupés les pouces pour ne plus pouvoir jouer des kinorot, car ils disent « Ech nashir et shir Hashem al admat nechar ». Comment peut-on chanter la louange de Dieu là-bas, là-bas, loin à Babylone ? Abodai, c'est de cela qu'on parle. C'est cette condition absolument terrible pour les Juifs qui arrivent à Babylone. Cependant, eh bien, vous savez, c'est comme tout. C'est comme tout. À un moment donné, bah, on va commencer à s'y faire. Et les Juifs vont arriver et s'installer à Babylone dans plusieurs endroits différents. De manière générale, on va les retrouver évidemment dans la Mésopotamie, dans le bassin babylonien. Ils seront entre plusieurs villes. Il y aura l'aristocratie qui sera à Babylone elle-même, mais on va retrouver beaucoup de Juifs dans la ville de Nippur et dans les villes qui sont aux alentours. Où est-ce qu'on d'où est-ce qu'on sait tout cela? Le Tanakh, à ce moment-là, n'en parle plus. Une fois qu'on est à Babylone, on ne retrouve plus de véritables informations dans le Tanakh, à part un tout petit peu dans le livre de Yeheskel et dans le livre de Ezra. Mais on va beaucoup retrouver d'informations dans ce qu'on appelle les écrits de El Yahoudou. Mazel, les écrits de El Yahoudou, eh bien, il s'agit d'à peu près 200, comment dire, des panneaux comme ça d'argile sur lesquels ont été gravés des écrits qui parlent justement de la vie des Golé Mamlechet Yehuda, des exilés de la du royaume de Judée. Et donc, nous avons ces écrits-là qui ont été retrouvés, qui sont écrits en acadien, en écriture cunéiforme, et qui racontent la vie de ces nouveaux juifs qui sont arrivés à Nippur et dans la région. Donc, nous avons des informations à ce niveau-là. Nous avons également des informations, eh bien, du livre de Yeheskel. Eh oui, Yeheskel, An-Navi, nous parle de ces endroits où on va partir. De cet endroit où on va partir dans le livre de Yeheskel, eh bien, il est mentionné deux endroits. Deux endroits où on va s'installer. L'un s'appelle, d'après le prophète, Nahar Kevar, le fleuve Kebar. Et bah, cet endroit-là est tout à fait connu, car dans les écrits babyloniens, nous connaissons l'endroit qui s'appelle Nahar Kabari. Nahar Kabari, Nahar Kevar, ou alors An-Nahar Kabir, le fleuve puissant. Eh bien, c'est une des endroits qui est à côté de la ville Nippur, où ont été emmenés les Juifs de Judée. Mais il y a un autre endroit très connu qui a été l'endroit où les Juifs de Judée ont été envoyés. C'est un endroit extrêmement connu. Ah, dans ce cas, est-ce que ça s'appelle quand même la Shonara? Si il s'agit de Toelet. Non, tu as raison. Alpia Alaha, si c'est les Toelet, ce n'est plus du la Shonara. Tu as raison. Tout à fait. Mais ici, dans le Talmud, il voulait être Lifnim Mishurat Adin. Quoi qu'il en soit, l'autre endroit où on va retrouver, évidemment, les Juifs à Babylone, c'est un endroit que nous connaissons très bien, puisqu'il s'appelle Til Aboudi. Til Aboudi. Nous, Til Aboudi, ça vous rappelle rien? Dans la bouche de Yeheskel, il n'appelle pas cet endroit Til Aboudi, mais il appelle ça tout simplement Tel Aviv. Tel Aviv. Alors, Tel Aviv, évidemment, pour nous, ça fait penser Tel Aviv, ça fait penser Gush Dan, ça fait penser Altneuland, puisque le nom de Tel Aviv a été donné et proposé par Schenkin, Ken, qui a proposé cela comme traduction du livre de Herzl, Altneuland, pays ancien, pays nouveau, Tel représentant la colline archéologique, l'ancien, Aviv, le printemps, le renouveau, nouveau, mais en vérité Tel Aviv, eh bien Tel Aboudi, Tel Aboudi, Til Aboudi pour être exact, eh bien, c'est la traduction de la cité qui a été, balayée par les eaux. Et cette ville fait référence au Maboul, qui a touché la Babylonie également, à l'époque du déluge. Donc, on peut voir ici les différentes endroits, les différents endroits où Amisraël va partir en exil et comment Amisraël va vivre en exil, eh bien, durant la période de Galout Bavel. Bien que les choses soient claires, les Juifs en Babylonie ont un statut particulier, un petit peu comme ils auront dans les pays musulmans. Alors, ce ne sont pas des dhimmis ici, mais ce sont des chouchanous. Les Juifs sont des chouchanous à Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire chouchanous? Eh bien, ça veut dire que ce sont des gens qui vont pouvoir obtenir des terres à condition qu'ils fournissent un travail qui sera imposé par l'État. C'est-à-dire, lorsque le royaume leur dit « j'ai besoin qu'il y ait des gens qui travaillent à cet endroit-là au niveau agricole, qui dévient la rivière ou un truc comme ça », toi, tu fais le boulot, après, eh bien, tu peux hériter d'une parcelle de ce territoire. Et donc, c'est ça la dimension de Chouchanou qui était la dimension des Béné Israël. D'un autre côté, ils vont devoir, évidemment, payer une taxe en tant que, justement, eh bien, ceux qui ont été conquis, c'est une hashpala à ce niveau-là, et on retrouve ça, j'ai envie de dire, un petit peu partout. Il y aura également, malheureusement, on est en Babylonie, hein, à Babylone, il y a l'esclavage, en veux-tu, en voilà. Eh bien, on va retrouver toujours dans ces ktovot, dans ces écrits d'Al-Yahoudou, que parmi les Golé Bavel, les Juifs de Jérusalem, il y aura énormément de gens qui deviendront des esclaves tout simplement. La situation est donc terrible pendant près de 52 ans. 52 ans où la situation du Ham Israël à Babylone, eh bien, elle est mauvaise, qu'est-ce que je te dise. Évidemment. Qui est le dirigeant du peuple juif à ce moment-là? Il n'y en a pas vraiment. Bégadol, dans chaque endroit où on va trouver des juifs, eh bien, les anciens de la communauté sont ceux qui dirigent. Mais il n'y a pas véritablement de représentation juive. Il n'y a pas véritablement d'institution juive à ce moment-là. Est-ce que les juifs continuent à garder un semblant de judaïsme à ce moment-là? Eh oui. Là, t'es obligé de citer le livre de Ezra et de Néhémia. Et là, tu vois qu'est-ce que 70 ans ont fait aux Juifs de Babylone. Parce que si pendant les premières années, ils ont dit Al Ne'arot Babel, Sham Yashavnu, Gambachinu, Bzochenu, Etzion, c'est à fait mode. Mais très très vite, ça va s'arrêter cette histoire. Et on voit que 70 ans plus tard, lorsqu'il va y avoir, et on avait dit au premier cours de l'époque du deuxième temple, lorsque Ezra et Néhémia vont faire revenir les Juifs à Jérusalem, mais les amis, de quoi parle-t-on? Les Juifs sont pour la majorité, et je parle de ceux qui rentrent à Jérusalem, sont pour la majorité, et donc c'est pire pour les autres, hein, t'imagines, celui qui a quand même la fibre sioniste, en général, il est quand même moins assimilé que celui qui est resté à Paris. Bekitsour, ou à Babylone, à Mouchané. Eh bien, le livre de Ezra fait mention d'un peuple juif qui a complètement oublié son identité, qui est, pour la plupart, l'écrasante majorité est mariée avec des non-juives, qui ne savent plus ce que c'est que la fête de Soukhot, qui ne savent plus ce que c'est que le Shabbat. Donc, on voit ici un peuple juif qui a été complètement cannibalisé de l'intérieur, au niveau de son identité, au niveau de sa pratique, évidemment. Il faudra attendre 52 ans, pour que une grande guerre entre, cette fois, Babylone et la Perse, voit la victoire des Perses, pour que finalement, eh bien, le roi Koresh Cyrus, roi de Perse, en l'an -539, eh bien, arrive au pouvoir, et comme on avait commencé le cours du deuxième temple par là, donne la permission, pas que aux Juifs d'ailleurs, à tous les peuples conquis par les Babyloniens, en tant que on va dire punition à Babylone, dire non seulement vous avez perdu votre guerre contre nous, mais en plus, les acquis que vous avez eus de vos conquêtes, eh bien, on les enlève. Et donc, finalement, Koresh, Cyrus, va donner la permission, entre autres, aux Béné Israël de rentrer en Israël, de rentrer à Jérusalem, de reconstruire la ville, de reconstruire le Beth Amikdash. Et c'est ça qui va marquer la Bah, le début du second temple. Donc en vérité, quand on parle de Galout Bavel et qu'on parle de Shivim Shana de Galout Bavel, en vérité, il y a eu 52 ans d'exil de Babylone et 18 ans d'exil perse avant qu'on ait la permission de revenir à Jérusalem. Et à ce moment-là commence eh bien, la période du second temple que nous avons déjà commencé à évoquer, que nous avons déjà terminé en fait d'évoquer. Et donc je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, d'aller maintenant commencer les épisodes sur l'histoire du second temple. Je précise que donc la semaine prochaine, nous aurons un épisode spécial pour Purim qui fera véritablement le lien entre les deux Batei Mikdash. Shavua Tov, les Koulam!